Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Passée de 3 minutes, vous êtes sur Europe 1, c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin, donc n'hésitez pas, vous pouvez nous joindre au 39-21, chers amis, et peut-être ce soir vous raconter, comme vient de le faire Dominique avec nous, sur cette grossesse à venir, Bénédicte qui bientôt s'envolera avec son mari pour l'Ukraine, et au bout, eh bien, il y aura le bonheur. Et on ne peut voir que ça. On accueille Doris maintenant au 39-21. Bonsoir Doris.
Oui, bonsoir Olivier.
Bonsoir, comment allez-vous Doris?
Ça va beaucoup mieux. Moi,
ça
je
va
suis
mieux.
Ravie de... Oui, ça va mieux. je suis d'abord ravie de vous parler parce que ça fait assez, même bien longtemps que je vous écoute dans mes longues nuits d'insomnie. Maintenant, je suis moins insomniaque. Je voudrais vous parler ce soir, si vous êtes d'accord, de mon aventure de confinement qui n'est pas ordinaire.
Avec grand plaisir, avec grand plaisir.
Et qui débouchera sur une autre aventure qui est un peu liée. Que vous parliez tout à l'heure de Sylvain Tesson, c'est ça?
Sylvain Tesson, avez... oui. Peut-être pendant les infos, mais moi non, je n'ai pas parlé de Sylvain Tesson.
Non, c'est pendant les infos parce que vous l'accueillez sur Europe 1 demain, je crois.
Ah, très bien.
Et Sylvain Tesson est un grand écrivain voyageur.
Oui.
Donc, je ne suis pas de l'envergure d'un Sylvain Tesson, mais je suis une grande voyageuse aussi. Donc on en parlera à la fin, si vous voulez bien.
Pas de problème, je vous écoute.
Donc voilà, j'ai été confinée pendant 114 jours. En Mauritanie. La Mauritanie, c'est un pays islamique
oui.
qui se trouve en dessous du Maroc, entre le Maroc et le Sénégal.
D'accord.
Que je connais très très bien. Ça fait 22 ans que je connais l'Afrique de l'Ouest, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Mais là, rester confiné à Nouakchott, la capitale, pendant 114 jours, dans un pays désertique où il n'y a rien à faire,
ça a dû
ça
être
a été dur.
Ça a dû être très dur, oui.
Ouais. Ah oui, et ça a mal fini, c'est-à-dire on ne m'a pas rapatrié parce qu'on ne me rapatriait pas, mais il m'a fallu une lettre du docteur, faire intervenir l'ambassade de France à Paris par l'intermédiaire du ministère de l'Intérieur. J'ai un ami consul à Ouagadougou qui a fait intervenir le consul à Nouakchott. Enfin, il y avait tout un truc finalement. Moi, j'ai forcé la porte de l'agence Air France parce que le garde ne voulait pas me laisser rentrer. J'avais un papier pourtant. Je lui ai dit, vous ne m'empêcherez pas, je rentre. Donc, je suis rentrée dans la cour, j'ai attendu la chef d'agent. Et quand la chef d'agent, elle a vu ma tête, elle a vu l'état, je tenais à peine debout. Hein. C'était le 8, donc il y a 12 jours.
Vous êtes resté jusqu'au 8, jusqu'au 8 en Mauritanie.
Oui.
Alors, ça a dû être, horrible.
Oui. Ah, ben c'était plus qu'horrible. Et surtout que j'étais dans des conditions assez dramatiques parce que voilà ce qui s'est passé. Je revenais de Guinée. Et j'allais à Ouagadougou, qui est le nord de la Mauritanie, le grand port commercial, où j'avais des conférences qui étaient prévues.
Mmh.
Donc j'ai fait mes conférences à Ouagadougou, super, les collèges, lycées, l'Alliance française, tout ça, ça a très très bien marché, j'étais super contente. Et je redescendais sur Nouakchott, puisque je devais faire des conférences au Musée national de Nouakchott et dans les autres alliances françaises de Mauritanie. Manque de bol, confinement, toutes les frontières fermées. Et moi, j'avais mon billet pour le 18 mars et ils ont tout fermé le 17. Voilà. J'aurais de loin préféré être confinée dans mon île de Guinée que je connais bien et où je veux finir ma vie. Manque de peau, je me suis retrouvée en Mauritanie. Et là, j'ai eu quand même une chance. C'est qu'un copain qui était confiné, lui, au Maroc, qui n'a pas pu revenir en Mauritanie, m'a dit, va dans mon auberge, qui était fermée.
Viens dans mon
auberge.
D'accord.
Alors, je suis allée dans son auberge où j'avais déjà dormi 2 jours en janvier. Mais là, manque de peau, il n'y était pas, lui. Oui. Mais il y avait son collègue. Mm-hmm. Et son collègue s'est avéré être un mec... Bah, je ne sais pas vous dire, on s'est pas parlé pendant 3 mois. Quoi.
D'accord. C'était un Français ou un Mauritanien ?
Oui, c'est un Français. Bon, militaire de base, je n'ai rien contre les militaires, au contraire.
Ouais.
Bah, alors, d'une éducation et d'une vulgarité innommable. Donc, j'étais vraiment seule, parce qu'il n'y avait personne dans cette auberge. J'étais bien logée, je ne peux pas me plaindre. Et puis, à la fin, je ne mangeais plus, je dormais plus, c'était banc de sable, du sapin, tout. L'horreur, voilà l'horreur.
Vous étiez dans les terres en Mauritanie ou au bord de la mer ?
Nouakchott, la capitale, n'est pas dans les terres, c'est pas au bord de la mer, c'est-à-dire c'est à 3 km de la mer.
Oui, donc vous ne pouviez pas aller à la mer, même confiné en fait.
Si,
quand même.
On pouvait circuler dans Nouakchott. Mais enfin, c'est quand même un peu... la mer, il faut même pas y penser. Moi, je suis allée 3 fois à la plage avec un autre ami.
Ouais,
il y a du vent terrible, il y a des vagues terribles, on ne peut pas se baigner, il y a du monde. Enfin, il y a beaucoup de pêcheurs, tout ça, personne n'est masqué, évidemment.
Ouais.
Là-bas, ils ne croient pas à la maladie. C'est vrai qu'il y a eu très peu de cas, mais ils ne croient pas. Donc,
ils ne croient pas, et en même temps, ils ont fermé leurs frontières, donc ils y croient un peu quand même.
Ben oui, mais ils ont bien fait de tout fermer, c'est ce qui les a protégés quand même.
Oui. Mais alors, lorsque vous dites que la Mauritanie ferme ses frontières le 17, donc ça veut dire que votre vol le 18, voilà, Air France, l'ambassade de France là-bas en Mauritanie, on plante tous les Français qui sont là-bas.
Alors, tous les Français qui sont là-bas sont des expats, comme on dit, hein,
oui.
Des gens qui travaillent là-bas. Beaucoup étaient des professeurs, soit d'école privée, soit du lycée français ou des écoles françaises. Beaucoup sont rentrés avant moi. J'aurais pu rentrer plus tôt. Mais d'abord, les prix des billets étaient invraisemblablement trop élevés pour ma bourse. Et moi, j'avais espoir de rentrer par la terre, c'est-à-dire par la route, et de passer par le Maroc, m'arrêter voir mes amis, machin, puis continuer comme d'habitude. Mais là, aucune ouverture possible. Donc, je suis restée en attendant que ça ouvre. Et puis, c'est au dernier moment, quand j'ai vu que j'en pouvais plus, que j'ai décidé de prendre ce vol et que j'ai réussi à prendre ce vol.
Mais alors, comment avez-vous fait ? Parce que ça n'était toujours pas rouvert, si je comprends bien.
Non, alors c'est Air France qui a mis en place des vols pour des gens qui, français, apparemment, je pense que c'était... Il y avait beaucoup de Mauritaniens, mais de nationalité française. Il y avait quelques Français. Et en fait, c'est un vol qui faisait Paris-Conakry, la capitale de la Guinée,
oui.
Qui prenait des Français à Conakry, qui refaisait escale à Nouakchott, prenait donc les gens qui voulaient monter, et de là, regagnait Paris. C'est ce vol que j'ai pris. Il y en a eu plusieurs. Voilà. Et j'ai eu la chance d'avoir un billet abordable, si on peut dire. J'ai payé 600 euros quand même. Hein,
oui, pour un vol. Ce qui est cher quand même.
Ah oui, parce que d'habitude, le vol, il vaut 400 euros. Hein.
Et donc, comment expliquez-vous que, au même titre que des gens qui étaient bloqués en Inde, qui étaient bloqués au Maroc notamment, puisqu'on a eu une dame il y a un mois et demi qui était bloquée au Maroc, comment est-ce que vous expliquez l'attitude des consulats, des ambassades où on a l'impression que tous ces gens qui étaient à l'étranger, tous ces Français, ont été complètement livrés à eux-mêmes et que... Et que c'était aux compagnies de gérer, en fait. On a tout... Enfin, c'est l'impression que ça a donné d'ici, en tout cas.
C'est exactement ça. Si vous voulez, le jour où je me suis... Donc, le 17, quand je me suis vue bloquée à Nouakchott, mon premier réflexe a été de téléphoner à l'ambassade. Alors, j'ai failli me retrouver sur le trottoir, quand même, parce que ma carte Visa, ma carte Mastercard, ne fonctionne pas en Mauritanie. Donc, je ne pouvais pas retirer d'argent. Je me suis retrouvée sans argent, sans logement, si je n'avais pas eu ce copain à qui j'ai fait appel après, sans argent, sans domicile fixe, seule.
Et ça aurait pu être très grave quand même, non ?
Absolument, j'ai téléphoné à l'ambassade, évidemment, parce que j'avais une puce de téléphone mauritanienne. J'ai eu la secrétaire, très gentille, je lui ai expliqué, je lui ai dit, je ne suis pas toute jeune, j'aurai 78 ans à la fin de l'année. Et je lui explique mon cas, elle me dit, ah, ben madame, on ne peut rien faire pour vous.
Mais non.
Je lui ai dit, comment ? Je vous le jure. Je lui ai dit, comment vous ne pouvez rien faire pour moi ? Je me retrouve seule, je n'ai pas d'argent, ma carte ne fonctionne pas. Et vous pouvez, je n'ai personne où aller, tous les hôtels sont fermés, que faire ? Ah mais non madame, on ne peut rien faire pour vous. Faites appel à votre famille. Il faut vous envoyer de l'argent. Oui, c'est ce qu'on a fait après. Mais je voulais voir exactement ce qu'ils allaient me répondre. Voilà.
C'est quand même, c'est, avouez que c'est quand même assez incroyable d'entendre ça. Parce que...
Ouais, ouais. Mais vraiment, c'est infernal. Une fois,
je rappelle juste une chose, hein, je ne veux pas faire mon rabat-joie, mais ces ambassades... Et ces consulats sont payés quand même avec nos impôts. Donc, grassement, je ne sais pas, mais la moindre des choses, c'est que quand même, quand il y a une situation comme ça d'urgence, c'est que ça assure un peu. Je vous dis ça parce que j'ai vraiment, vraiment ce sentiment que je voyage beaucoup, moi, et j'ai eu cette chance de ne pas être en voyage, hein, mais d'avoir entendu un nombre de personnes vivre l'enfer.
Ah oui, c'était ça.
Et un peu parce qu'ils étaient seuls, ils étaient livrés à eux-mêmes.
Oui. Actuellement, ils ne sont pas seuls. Il y a une dizaine de camping-cars qui sont bloqués depuis le même jour que moi à Ouagadougou, la capitale économique.
Je crois que les camping-cars, c'est l'enfer pour eux. Au Maroc, je crois qu'il y a encore des milliers de camping-cars qui sont français, hein, qui sont bloqués.
Et eux, ils sont bloqués dans une tempête de sable permanente. Ils ne peuvent pas rentrer. Il y a des personnes âgées qui n'ont plus leurs médicaments. Alors là, il faut faire intervenir le consul. Enfin, ils vivent un enfer aussi, ces gens, un enfer. Enfin voilà, alors depuis cette aventure...
Revenons-en sur ce militaire quand même, parce que ça m'a intrigué un peu. Qu'est-ce qu'il avait à être mal embouché comme ça ?
Je n'en sais rien. Au début, pendant 15 jours, 3 semaines à peu près, 15 jours ça a duré. Ça ne s'est pas trop mal passé parce qu'il était toujours sur Twitter, que je ne connais pas parce que je ne l'utilise pas, et il est très branché, il est débranché dans la politique, contre ci, contre ça, contre Macron, contre...
Et tout ce qui se passe en France ?
Il n'est pas en France, qu'est-ce qu'il fout en Mauritanie ?
Non, mais la caricature des expatriés, vous savez, les expatriés, leur grand truc, c'est de passer leur temps à parler du pays d'être branchés politique et tout, quoi. Ce qui a le nom de m'horripiler, mais bon.
Ben voilà. Et moi, ça m'a horripilé. Et alors, au début, il me parlait de ça. On se voyait vers 10h, 11h, on se buvait un thé ensemble. Bon, je me disais, ma foi, parle, je t'écoute, c'est tout. Alors là, il était remonté, vulgaire, mais des vulgarités que j'avais même jamais entendues. Pourtant, je ne suis pas... Bref, et puis après, terminé. Il m'a dit, non, je me suis retiré de chez Twitter, sur Twitter. Ouais, il s'était fait bloquer son compte X fois. Donc, et à partir de ce jour-là, il ne m'a plus parlé. Il ne m'a plus
appelé. Ah, il s'est fait bloquer sur Twitter, c'est parce qu'il a dû raconter des bêtises dessus.
Mais plein de fois. Moi, il me disait, je ne peux même pas vous le dire. Plein de fois, il s'est fait bloquer. Et à partir de ce jour-là, c'était fini, il a tout lâché. Mais il ne m'a plus parlé.
Ah oui ? Donc, incroyable.
Quand je vous dis plus parler, moi, on se croisait de temps en temps à la cuisine. Bonjour, ça va ? Ouais, non, non. Voilà. Wow. Alors, au début, je faisais à manger. Je me disais, bon, je vais quand même faire à manger. Je lui fais des petits plats, des machins sympas et tout. Et jamais merci ni rien. Ça, je m'en fiche, à la limite. J'avais remis en état la cuisine parce que c'est dégoûtant. C'était horriblement dégoûtant. Et puis, un jour, une copine à lui qui est arrivée. Et puis... elle faisait à manger sa cuisine mauritanienne que j'ai d'être. Et donc, je voyais que ma nourriture que j'ai mise dans le frigo, il fallait l'acheter. Donc, j'ai dit, je ne fais plus à manger pour lui. Donc, j'ai commencé à plus faire beaucoup de cuisine, à plus manger bien moi-même. Et si vous voulez que je vous dise comment j'ai fini les derniers jours, j'achetais des boîtes de conserve et je mangeais directement.
Oh là là, ma pauvre. Et non, parce que vous m'avez dit que vous ne mangez plus à la fin.
Hop.
Mais par manque de morale ou parce que...
Tout. Je suis tombée en dépression grave.
Ah ouais, mais je veux bien vous croire. Parce que déjà à Paris et en France, hein, alors à part toutes les personnes que je connais qui habitaient en province, ça a tout de même été moins dur dans les campagnes.
Oui, exactement.
Parce que les gens qui habitent la campagne, finalement, à part le fait de ne pas aller travailler, se retrouver à la campagne et y avait le jardin, il y avait quand même des choses distrayantes. Mais à Paris, à Paris, Bordeaux, Marseille,
les grandes villes,
Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'il y a toute une partie des gens qui, maintenant, pète un peu les plombs maintenant, alors que le confinement s'est plutôt bien passé. Et il y a une espèce d'effet qui se coule, là, qui arrive maintenant, après confinement. Oui. Mais c'était tout de même difficile. Alors, j'imagine, en Mauritanie, où il n'y a rien. Enfin, quand je dis qu'il n'y a rien à faire, nous, on avait la chance d'avoir la radio, la télé. Il y a quand même qui fait du bien. Et puis, toutes les plateformes où on peut regarder des films, des séries. Enfin, ça passe, ça aide.
La chance que j'avais, c'est que j'avais mon PC avec moi.
Oui.
Malgré que la connexion soit pourrie, d'ailleurs.
La Mauritanie, je sens que vous n'allez pas y retourner d'aussi peu.
Si, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup, mais j'aime le désert, les nomades, les chameaux, le banc d'Arguin avec les pêcheurs, tout ça, je connais par cœur.
Ah, il y a un banc d'Arguin ? Il y a un banc d'Arguin là-bas.
Le banc d'Arguin, et c'est là, tout ce qui est à moteur est interdit, il y a encore du poisson.
Comme au Cap Ferret, donc il y a une partie qui s'appelle le banc d'Arguin au Cap Ferret, non ?
Ça, je ne connais pas.
Si, il me semble.
Je connais pas. Enfin voilà, mais à Nouakchott, si vous voulez, à Nouadhibou, je m'étais déjà fait traiter au début. C'était donc fin février, début mars. Dans la rue, on me traitait de Corona. Corona.
Ah oui, oui.
Et puis on m'a balancé des cailloux dessus aussi.
Alors ça, ça a été un réflexe, c'est très curieux, mais un peu partout dans le monde. Ouais. Il y a eu cette attitude vis-à-vis des Européens. Je sais qu'en Inde, qui est tout de même un pays où je suis allé presque une dizaine de fois et où vous êtes... vous sentez que voilà, il y a une grande différence dans plein de choses. Mais où vous avez quand même un respect. J'ai toujours été très bien. Je me suis toujours très bien senti là-bas. Et j'étais très étonné d'apprendre que on a eu même un jeune homme un soir qui était à Goa et qui nous parlait d'une manifestation devant l'hôtel où le patron de l'hôtel l'avait caché et où les Indiens, les locaux, donc demandaient son expulsion. La police était venue le tatouer. Un truc indélébile à l'encre. Pour qu'il soit mis en quarantaine, comportements, des comportements comme si les étrangers étaient porteurs et rapporteurs donc de ce virus.
Ça. Oui, on m'a.
En même temps, j'ai entendu parler de compatriotes qui se comportaient pas très bien non plus avec des personnes asiatiques ici en France. Donc on a nos lots d'idiots un peu partout, je pense. Vous avez été donc
Oui, alors c'est pour ça qu'au début, je ne sortais pas de l'auberge. Il y avait une cour dans l'auberge, je pouvais marcher. Tous les jours, je faisais mes kilomètres, là, aller-retour. Parce que je n'osais pas sortir toute seule dans la rue. Moi, la rue ensablée, j'étais encore dans un quartier assez coté, donc ça ne craignait pas trop. Mais un beau jour, j'ai dit, moi, je sorte quand même dans la rue, donc j'ai mis mon masque et puis j'ai commencé à marcher dans le quartier, quoi. Mais les gens vous regardaient, ça me regardait d'un œil. Possible, quoi. Donc ça donne pas envie. Enfin bref. Et alors donc depuis ce confinement, il faut plus me parler de solitude, hein. Parce qu'il y a des tas de gens qui vous disent retour vers soi, face à soi-même, etc. Bon, ça va, le tour de moi-même et de mon moi-même intérieur, je l'ai fait pendant 114 jours.
Ouais, bon. Ouais. Et alors
alors j'avais qu'une envie, c'est de partir et de me retrouver un petit peu chez moi.
Oui,
bon, je vais repartir parce que je ne reste pas en France l'hiver, mais j'attends que les frontières rient.
Et alors, vous me disiez que vous vouliez finir votre vie où ? En Guinée ?
Oui, dans les îles de Los. L-O-O-S. Allez voir sur une carte.
Ah oui, parce que je ne connais pas ça.
Non, moi je connais bien la Guinée. Je vous raconterai vite fait bien pourquoi. Mais je ne connaissais pas les îles de Los. C'est des amis qui m'ont dit, va sur les îles de Los, c'est magnifique. Effectivement, et là j'ai trouvé où je vais m'installer. Ça fait 15 ans quand même que je voyage dans le monde entier pour essayer de trouver un endroit qui me plaît. Et là, j'ai trouvé. C'est pas cher, c'est pas loin, c'est beau, les gens sont gentils.
C'est joli.
Oh, c'est magnifique. Bah, je vous enverrai des photos, si vous voulez.
Ah oui, avec plaisir.
C'est vraiment beau. Donc, j'y retourne là, dès que soit les routes, soit les avions reprennent.
Parce que la Guinée-Bissau, c'est safe ?
Non, c'est pas Guinée-Bissau, c'est Guinée-Conakry.
Ah, Conakry, d'accord. Et c'est safe comme pays, quand même ? Parce qu'on a quand même pas mal entendu d'histoires...
Il y a beaucoup d'histoires politiques. Ça,
oui, puis il y a beaucoup d'histoires de cocaïne là-bas aussi, hein, puisque...
Je sais pas, je suis pas
au courant. Oui, si, mais il y a... Si vous voulez, c'est la Guinée, en fait. La Guinée est un État, en fait, qui semble-t-il, est le point le plus proche du continent africain par rapport au Brésil. Et il y a eu beaucoup de enfin, le bruit a couru que la Guinée était la porte d'entrée. Enfin, ça n'est pas qu'un bruit, hein. C'est établi.
C'est peut-être peut-être la Guinée-Bissau.
Non, il me semble que c'est Conakry.
Ah oui, de ça, j'ai pas entendu parler. C'est bizarre. Oui. Je demanderai parce que j'ai des amis là-bas.
Non, mais c'est important que vous renseigniez sur tout ce qui s'est passé autour de ça, parce qu'il y a quand même eu de sacrées histoires. Et justement, je me demandais comment était ce pays, parce que bon, il peut y avoir ce type de trafic qui est un trafic international, mais et qui n'est pas vraiment d'impact sur la vie locale. Mais bon, si vous adorez, c'est que ça doit être super. La Guinée.
Disons que il y avait une région de Guinée que j'adorais. Ça s'appelle le Fouta Djallon. C'est dans les montagnes. Et dans un premier temps, c'est là-bas que je voulais vivre. Et puis, vu l'état des routes et les manifestations qui se passent là-haut. J'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai dit non, je ne vais pas m'installer là-bas. C'est beaucoup trop loin d'abord de la
capitale. Pourquoi y a-t-il des manifestations ?
Eh bien, à cause d'Alpha Condé, le président de la République, qui a changé la constitution pour
être éligible à
faire un troisième, voilà, faire un troisième mandat et après éligible à vie. Et alors, évidemment, les gens ne sont pas contents. Donc, aujourd'hui encore, je regardais les infos de Guinée. Ça me dérègue. Et puis, il y a des morts. Et puis, mais ils sont tout le temps en train de se taper sur la figure. Tout le temps.
Bah, tous ces pays-là, hein, dès qu'un gars est au pouvoir, malheureusement, hein, il pond des décrets comme ça. C'est un peu une mode.
Mais sur mon île, il ne se passe jamais rien. Ils sont tranquilles. Ils ne se mêlent pas de tout ça.
Et donc, votre projet de vie, c'est de quoi ? De racheter une petite maison là-bas ?
Non, c'est un projet. Mon projet, c'est de m'installer là-bas, en ayant bien sûr les autorités, l'autorisation des autorités. Mais ça, il n'y a pas de problème, puisque mon meilleur ami est préfet des îles. Mmh. Et donc, je veux monter un dispensaire gratuit pour les gens.
D'accord.
Parce que dans le village que j'ai choisi, où il n'y a rien, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de dispensaire, il n'y a rien. Donc, évidemment, c'est là que j'ai choisi d'aller vivre.
D'accord. Bon, mais voilà. Et dans combien de temps vous allez aller vous y installer ?
Et bien là, dès que les frontières ouvrent, j'y retourne.
Ah oui, ça y est, vous quittez la France et vous allez vous installer là-bas.
Ben après, je reviens régulièrement en France, puisque j'ai une partie de ma famille dans l'hémicycle.
Oui.
Mais voilà, donc ça, c'est mon grand projet de vie. Voilà.
D'accord. D'où vient cet amour pour l'Afrique de l'Ouest ? Ça vous a pris
Alors, ouais, c'est une longue histoire. D'ailleurs, à ce sujet, si je peux me permettre de vous en parler, j'ai fait un truc assez extraordinaire. Je vais vous dire pourquoi d'abord je connais l'Afrique. Il y a 22 ans, j'habitais un petit village en Haute-Provence et une amie qui ne pouvait pas partir en Mauritanie me dit « Tu ne pourrais pas aller à ma place en Mauritanie, au village d'Ajouer, voir si l'eau arrive à l'école, je ne peux pas y aller et tout. » Moi, je venais d'être opérée, j'avais arrêté mon boulot. J'ai dit « Ok, je pars. » J'ai pris mon sac à dos et je suis partie. Ça m'a plu. J'ai trouvé un guide. J'ai fait tout le tour de la Mauritanie. J'ai découvert la Mauritanie il y a 22 ans, hein. Ça n'a rien à voir avec ce que c'est maintenant. Et je suis retournée l'année d'après avec ma fille et un ami en voiture. On a été jusqu'au Sénégal. Et j'ai décidé de m'installer au Sénégal où j'ai vécu 8 ans.
D'accord, super.
Voilà. Et puis un beau jour, j'en ai marre. Et j'ai dit, je prends mon sac à dos et je pars à pied. Et là, j'ai fait un truc que aucune femme n'a jamais fait. C'est pas ma gloire. Hein. Mais quand même, vous voyez où se trouve le fleuve Sénégal ?
Oui, exactement. Oui.
Hein, ils partagent la Mauritanie et le Sénégal, c'est la frontière. Ils se jettent dans l'océan Atlantique et donc sa source se trouve justement en Guinée dont on parlait.
D'accord.
Eh bien, je suis partie de l'océan Atlantique, côté Mauritanie, et j'ai remonté à pied jusqu'en Guinée.
Voilà. D'accord.
Toute seule, en tongue, avec mon sac à dos, et j'ai fait 1700 km, à peu près, hein, en 2 fois 5 mois. J'ai marché 2 hivers.
Très bien.
Parce que je faisais la course avec personne, j'ai eu mal aux pieds, j'ai eu une palue, j'ai eu la fièvre typhoïde, j'ai eu plein de trucs. Et je raconte toutes ces aventures dans un livre. Voilà.
D'accord.
Donc les gens qui sont amateurs de voyage et d'aventure, je leur recommande tous les gens qui l'ont lu. Il y en a dans le monde entier, presque maintenant, mon livre, sont emballés, enchantés. Et ce livre s'appelle « Le mystère du Tiopeji ». Parce qu'en fait, je suis partie à la recherche des sources du fleuve Sénégal. Donc, en fait, alors à la recherche de ma propre source et de la source de l'humanité. Voilà. Donc, j'ai marché sans trop savoir pourquoi. Je suis partie, j'ai écrit mon journal et après, quand je suis rentrée, j'en ai fait un livre.
Bah, écoutez, très bien.
Fallu,
très bien. On mettra le titre de ce livre pour toutes celles et ceux qui veulent en prendre connaissance sur notre groupe de parole Facebook. Écoutez, je vous remercie mille fois de votre témoignage.
Je veux juste vous préciser, merci à vous, je veux juste vous préciser que le livre, vous le commandez sur Internet. Sur Internet.
D'accord.
Sur un site qui s'appelle lulu.com.
D'accord, voilà. lulu.com.
Vous tapez mon nom et vous tombez dessus.
Très bien, Doris. Bah, écoutez, bon retour au pays. Hein, oui, reprenez des forces et rencardez-vous bien la prochaine fois que vous partez.
J'étais partie depuis le mois de novembre.
Bon, donc vous allez reprenez un peu de force là. Hein. Prenez votre temps.
Oui, ça va aller.
Je vous embrasse. Merci. Bonne soirée.
Merci pour tout ce que vous faites.
Je vous en prie. Au revoir.